إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فنواصل بحمد الله تبارك وتعالى دروسنا في ما يتيسر من قراءة التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد طرحت سؤالا للشيخ حسن منصور الدغريري حفظه الله تعالى، وهذا الشيخ كان من تلاميذ الشيخ أحمد النجمي وكذلك الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليهما. وقلت إذا كنا في طائرة، يعني في الجو، وقد حان وقت الصلاة المغرب مثلا في البلد الذي تحتنا، لكن نحن ما زلنا نرى قرص الشمس في الجو، لكن تحتنا الأرض كما قلنا سوداء سوداء، لكن ما زالت الشمس في الجو، نرى الشمس في الجو والأرض سوداء، فهل نعتبر وقت الصلاة للبلد الذي تحتنا أم ننتظر حتى تغرب الشمس؟ فقال الشيخ انتظروا انتظروا حتى تغرب الشمس. Donc pour نعم pour confirmer un peu ce qu'on pensait déjà, mais alhamdulillah ça confirme. يعني j'ai posé la question au Cheikh Hassan Mansour Tahriri qui faisait partie des élèves de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah, de Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah, donc deux très grands savants contemporain. Et je posais la question, yani, lorsque on se trouve dans un avion, donc en hauteur, dans le ciel, et on voit qu'en dessous de nous, la terre, elle est noire, elle est obscure. C'est-à-dire que l'heure de, par exemple, le Maghreb, yani, est arrivée, mais au sol. Au sol, l'heure de le Maghreb, il est venu. Et toi, tu es au ciel. Et tu vois encore le disque solaire dans le ciel. Vu que tu es en haut, tu vois encore le disque solaire. Mais tu vois qu'en bas, c'est tout noir. Donc en bas, en fait, ils sont peut-être déjà en train de prier. El Maghreb. Mais toi, tu vois encore le disque solaire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te fies à l'heure du pays qui est en dessous de toi? Ou tu attends jusqu'à ce que tu ne vois plus le soleil? Parce que le Maghreb, c'est quand le disque solaire a complètement disparu de l'horizon. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, il m'a dit le Cheikh, tu attends. Tu attends jusqu'à ce que le disque solaire disparaisse. Et tu fais ça pour toutes les prières, en fait. Que ce soit pour le Fajr, le Maghrib ou l'Isha. Après, pour Dhuhr et l'Asr, c'est plus compliqué, vu que là, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Et les ulama, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un peu. Tu prends l'heure du pays qui est en dessous de toi et tu rajoutes quelques minutes. Parce qu'en général, l'heure, elle vient après. Comme tu es en hauteur, du coup, l'heure, de l'endroit où tu es toi, de l'avion en fait, l'heure de la prière, elle rentre un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que tu fais pour Dhuhr al-Asr? Tu rajoutes 10 minutes, un quart d'heure. Ça suffit. Largement. Ça y est? C'est bon, Bismillah. Arkan, ikhra, inshallah. Sourate, Shams.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
أعد
ونفس وما سواها
س وما سواها السين مرققة أنت
ونفس وما سواها
لا قل سوى سوى
سوى
س
س
سوى
سوى
أي نعم
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
حسبك بارك الله فيك. سليم. والشمس.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
جيد بارك الله فيك. مفوزا.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
الشدة والنهار
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد خاب من دساها
قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها.
حسبك بارك الله. Attention, Inch'Allah, au hifz. Le hifz, Inch'Allah ta'ala. Révise-la encore, Inch'Allah. Juste le début, tu vois, Inch'Allah ta'ala. Au moins jusqu'à. Et encore une fois, toujours le djim. Jallaha. Jallaha. Qul.
Jallaha.
Ana.
Tu dis comment?
Je. Tu dis j'ai. Hein? J'ai. Laisse j'ai. J'ai. Jallaha. Fujuraha. Voilà. Fujuraha. Et aussi le ven. Sort un peu le bout de la langue. Ive. Voilà. Si tu sors pas la langue, ça va donner un ide. Ça va être un del si tu sors pas le bout de la langue. Ida yaghshaha. On travaille bien le hiv et le jim et le zel. Barakallahu fik. Idan yaqul an'am. Qulna innahu yajuzu as-sadaqa bi jami'i al-mal. Lakin qad dhakara ابن حجر في الفتح شروطا ما هي؟ On avait dit que il était permis de donner en aumône la totalité de ses biens. Mais Ibn Hajar a émis des conditions. C'est quoi les conditions, frère? Ouais. Voilà, c'est Hatou al-Badan, qui sont en bonne santé physique.
Tu ne sais qu'il ne va pas chanter sur ça?
Lui et sa famille. Saburan, lui et sa famille. Hua wa a'ila. Al-a'ila, na'am.
Et qu'il a une rentrée d'argent. Futur, proche.
Kana dhu maksab, ou dha maksab. Na'am. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a encore? Al-aql. Sihat al-aql, bien sûr. Quoi encore? Hein? Voilà. Na'am. La dayna alay. La dayna alay. Pas de dette. Quoi encore? Hein?
Pour la patience.
Il a dit la patience. On peut dire aussi qu'il n'est pas de famille. Donc soit qu'il n'est pas de famille, ou soit qu'il a une famille mais qui est patiente comme lui. D'accord? Donc on peut rajouter une condition. Là ça fait 7. On peut même rajouter encore une huitième qui est El Boulour, la puberté. La puberté. Hein? D'accord? Non. Donc ça en fait en tout 8 là en tout. 8 conditions. Donc, Sihat al-Badan, sont en bonne santé, qui ne sont pas en train de mourir, ça c'est interdit. Qu'il ait sa raison, qu'il soit pubère, qu'il n'a pas de dette, pas de famille, ou une famille mais qui patiente. Qu'il ait un travail, un salaire, un accès. Hein?
La raison.
On l'a dit. Et qui patiente. Voilà. Wakana. Il sait que son âme, il arrivera à la faire patienter dans la pauvreté. Donc s'il a ces 8-là, c'est bon. Hein? Avant de les avoir, les frères. Je pense qu'il n'y a que Abou Bakr qui a réussi à les avoir. Allahu alam. Non, ça existe encore, alhamdoulilah. Ça existe. Jusqu'à nos jours, des gens comme ça existent. Alhamdoulilah. Idan, qawluhu ta'ala. والسماء وما بناها قال المفسرون إنما هنا مصدرية وما بناها مصدرية أي والسماء وبنائها والسماء وبنائها وما بناها مصدرية ومصدر فعل بناء بناء طيب لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر Puis il dit, Allah tabarak wa ta'ala, de façon se rapprocher, et par le ciel et ce qu'il a construit. Par le ciel et ce qu'il a construit, ce qu'Allah a construit, a édifié. Les exégètes disent que harf ma ici, wa ma, Banaha, c'est un ma de masdariya. Masdariya, c'est-à-dire c'est un ma qui renvoie à la racine du verbe. À la racine du verbe. Donc la racine du verbe bana, c'est bina, la construction. Bana, construire. Sa racine, bina, construction. D'accord? La racine du verbe, je ne sais pas moi. Kataba, c'est quoi? Kitab. Kitab, naam. Kitaban. Donc. Le verbe c'est écrire, kataba, et la racine c'est kitab. Taïeb. La racine de wahada. C'est quoi? Tawhid. Il a dit. Donc ça voudrait dire ici le sens de la parole d'Allah est par le ciel et sa construction. Donc Allah Jalla wa Ala, il jure par le ciel. Et par sa construction, par sa création. La création du ciel. L'édifice du ciel. Non. Car le ciel est un édifice énorme. Grandiose. De par sa hauteur. De par sa largesse, sa largeur. De par sa solidité. Et autre que cela parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a mis dans le ciel. Et on voit que c'est également une construction, une création, un édifice qui est parfait. Parce que tu regardes le ciel, c'est une création qui est parfaite. Sans faille, sans défaut. C'est pour cela qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala en surat al-Mulk. C'est ce qu'il dit. Il doit s'en rapprocher, versets 3 et 4. Tu ne vois dans la création de Ar-Rahman aucune faille. Farji al-Basar, yani regarde, observe, tourne ton regard vers la création de Rahman. Hal tara min futur, est-ce que tu vois une faille? Est-ce que tu vois un défaut? Thumma arji' al-basara karratayn. Et observe plusieurs fois, si tu veux. Si tu veux, observe plusieurs fois. Hein? Regarde cette création-là autant que tu voudras. Yanqalib ilayka al-basar. Le regard te reviendra khasir wa huwa hasir. Frustré, yani, comme ils ont yani, traduit sans se rapprocher. En gros, ça veut dire que tu seras incapable de trouver un quelconque défaut. C'est impossible. Tu peux yani, t'amuser à chercher les défauts. Tu ne trouveras pas, au contraire, tu ne trouveras que perfection et signe de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. قوله تعالى والأرض وما طحاها يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا ليست لينة جدا وليست صلبة جدا بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم وهذا من نعمة الله جل وعلا على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة الله أكبر بين اللين والخشونة إلا في مواضع يعني قليلة لكن هذا القليل La yuhkam bihi al kathir. Aïna. Lui dit Allah tabarak wa ta'ala, il jure par la terre et wa ma tahaha, et ce qu'il a rendu plat, ou ce qu'il a nivelé. Donc le fait de niveler quelque chose, c'est la rendre plate. D'accord ? Droite, plate. Donc ce qu'Allah Jalla wa'ala a nivelé, a rendu plat jusqu'à ce qu'elle devienne yani, plate et praticable. Et donc elle n'est ni layyina, elle n'est ni trop molle jusqu'à ce que tu t'enfonces dedans quand tu marches. Et elle n'est ni trop dure non plus, ni trop molle ni trop dure. Mais, au contraire, elle est comme l'être humain a besoin qu'elle soit afin qu'il puisse, yani, parcourir ses étendues et vaquer à ses occupations. Et cela, donc, fait partie des bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour ses créatures, le fait qu'il ait nivelé cette terre, qu'il ait rendu plate et praticable et a fait d'elle ni quelque chose de trop mou, ni quelque chose de trop khachin, qui accroche ou rugueux de manière extrême. Mais, yeah, ni entre les deux. Ni tu t'enfonces, ni c'est quelque chose non plus qui va t'accrocher ou qui va faire que tu ne pourras pas avancer. D'accord ? Donc, c'est pas non plus... Parce que si ça serait trop mou, tu t'enfoncerais dedans. Et si elle serait trop agrippante, rêche, tu ne pourrais pas avancer, tu aurais du mal à avancer. Sauf bien sûr dans certains endroits, il dit le shir, qui sont très rares. Hein? Il y a certes des endroits où tu t'enfonces dedans, comme je sais pas moi, les sables mouvants, les choses comme ça, ou les endroits qui sont impraticables, parce que là justement c'est pas nivelé, les rochers, etc. Mais c'est des endroits qui sont rares par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre. Donc, il dit le Cheikh, ce qui est rare, on ne prend pas en compte son jugement par rapport au reste. D'accord ? Taï. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا نَفْسٌ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَكِنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ يعني كل نفس يعني كل نفس وما سواها يعني سواها خلقة وسواها فطرة سواها خلقة وسواها فطرة سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه أي خلقه المناسب له ثم هدى أي هداه لمصالحه وكذلك سواها فطرة كيف سواها فطرة ولا سيما البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهم في الأرض عفوا فإن الله جعل فطرتهم وهي الإخلاص والتوحيد الإخلاص والتوحيد كما قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نعم. Donc il dit ici, Allah tabarak wa ta'ala, de le sens rapproché, et par donc le nefs, par l'âme, et ce qu'il a modelé, ce qu'il a façonné, par rapport à cette âme, à cette créature, à cet individu. Donc même si le nefs ici il est au singulier, bien sûr ça concerne toutes les personnes et les êtres humains ici. Et ce qu'il a façonné pour cette créature-là, c'est-à-dire comment il a façonné et modelé et créé au niveau de son apparence physique, mais aussi au niveau de la fitra. Donc il y a deux formes de création harmonieuse qu'Allah Jalla wa Ala a donné à la créature humaine, qui est premièrement comment il a été créé physiquement, les jambes, les bras, la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et tout ce qui compose le corps de l'être humain. Mais également comment Allah Jalla wa Ala lui a donné une chose qui s'appelle Al-Fitra, la nature saine, originelle de l'homme. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Fa abawahu mada yuhawidani ou yunassirani ou yumajisani. » Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout nouveau-né naît sur Al-Fitra, c'est-à-dire sur Tawhid. Puis ses deux parents font de lui soit un Yahoudi, soit un Nasrani, soit un Majusi. D'accord ? Taïe. Donc Allah Jalla wa Ala a créé déjà, premièrement, en apparence, cet être humain-là, d'une apparence qui va lui être utile tout au long de sa vie. Et celle dont il aura besoin tout au long de sa vie et qui lui correspond bien sûr le mieux. Il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché, qui a donné à chaque chose sa création. Allah Tabarak wa Ta'ala a donné à chaque chose sa création. C'est-à-dire la création qui lui correspond. Et la création dont cette chose-là a besoin pour vivre, grandir, manger, se reproduire. Non. Et on voit, yani, juste quand on regarde l'être humain, subhanallah, en nous-mêmes, on voit des signes de la puissance d'Allah, tabarak wa ta'ala, sans rentrer dans les détails du corps humain, juste ne serait-ce que les doigts, le fait d'avoir 5 doigts, et le fait d'avoir juste des phalanges. Dans chaque doigt, on a 3 phalanges. Imaginez-vous qu'on n'aurait pas de phalanges et que nos doigts ne pourraient pas se plier. On serait comme des Legos. Des Legos. Ou juste, si on n'avait juste pas de doigts, une main comme ça, une genre de palme, mais sans doigts, subhanallah. On ne pourrait rien faire. On ne pourrait rien faire, ça, voilà. Non. Par contre, tu vois dans la création des animaux des choses incroyables. Et tu vois que c'est des choses qui leur servent à eux. Parce qu'ils vivent dans des conditions différentes des nôtres. C'est normal. Un requin, il n'a pas besoin de ce qu'on a à nous. Lui, il a besoin de pouvoir regarder à 360 degrés. Donc Allah Azza wa Jalla lui a donné une vision à 360 degrés. Lui a besoin de sentir des choses. Allah lui a donné une odorat incroyable. Non. Thumma hada, puis, donc dans le verset ici, dans Surat Taha, il dit Thumma hada. Donc il lui a donné, à chaque chose, il a donné sa création. Ensuite, il l'a guidé. Thumma hada. Il a guidé. C'est-à-dire, il a guidé cette créature-là vers ce qui va lui être profitable. Ce qu'il va lui être profitable. Qui a appris justement à tous ces animaux-là comment chercher à manger? Qui a appris à l'abeille de construire la ruche de cette manière-là? Avec cette forme-là, subhanallah, géométrique, incroyable. Que même un architecte, imaginez-vous un insecte a trouvé la forme la plus parfaite pour faire ce qu'elle a à faire. Les scientifiques, ils ont dit que cette ruche-là, dans la forme qu'elle a, il n'y avait pas mieux comme forme. Il n'y avait pas mieux en fait. Il n'y avait pas plus pratique que ça. Subhanallah. Sans parler des fourmis et de tous ces animaux-là qui sont cités dans le Coran. Donc Allah Jalla wa'ala, si vous les citez, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est aussi pour qu'on médite sur ces animaux et ces créatures. Donc Allah, qui c'est qui les a guidés vers ces choses-là? Est-ce que elles sont allées à l'école, elles ont appris comment faire ces choses? Non. Allah les a créés comme ça. Et c'est lui qui les a guidés vers ça. Allahu Akbar. C'est lui qui les a guidés vers ça. Et tu vois, ces animaux-là, ils ne font pas de gaspillage comme nous. Ils ne font pas de choses qui les amènent à l'extinction. Non. Ils font les choses avec dose. Avec la dose, qui convient. Tu ne verras pas, par exemple, les lions chasser les girafes et tuer toutes les girafes d'un coup. Non, ils vont prendre une girafe. Hop, c'est fini. Après, tu les vois, ils ne chassent plus pendant des jours. Tu vois, ils ne font pas de gaspillage comme nous. Et quand ils ont tué une girafe, de là, ils la mangent jusqu'à la fin. Et à la fin, s'il reste, il y a encore les vautours. Et les vautours qui arrivent et les charognes qui finissent le reste. Alhamdulillah. Mais également, Allah Jalla wa Ala, il a créé et il a donné cette fitra aussi à l'être humain. Et bien sûr, par-dessus tout, l'homme ou l'être humain. Et cette fitra, c'est l'ikhlas et le tawhid. D'accord? Donc, la nature originelle de l'être humain, c'est ça, c'est l'ikhlas. C'est le monothéisme. C'est l'unicité. Dans l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala, dans la seigneurie, les noms et attributs. C'est pour ça qu'il dit Allah, Jalla wa ala, dans Surat al-Rum, dans le sens rapproché, et dirige-toi de tout ton être, ou dirige ton visage, c'est-à-dire dirige-toi de tout ton être, vers la religion en tant que hanif, en toute exclusivité à Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, le hanif, c'est le muqbil ala Allah. Le muqbil ala Allah, le mu'arid, amma siwa. Le hanif, c'est celui qui est tourné vers Allah, jalla wa ala. Qui se dirige vers Allah, tabarak wa ta'ala, et qui se détourne de tout autre qu'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est ça le hanif. Donc, hanifan, tourne-toi vers Allah, tabarak wa ta'ala, et tourne le dos à tout ce qui n'est pas Allah, jalla wa ala. Et ça, c'est la fitra d'Allah. C'est la fitra qu'Allah Jalla wa Ala a donné à l'être humain. A donné à l'être humain. On a fait cette ayah, qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إلي واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. نعم هنا في هذه الآية قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا, فهذا خطاب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك ثم يقول بعد ذلك منيبين إلي واتقوا منيبين إلي. فقوله منيبين إلي هذا حال, منيبين حال, نقول في النحو حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك. الضمير أنت, أنت أقم وجهك. الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم, أي أنت يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرير المعنى فأقم وجهك للدين حنيفا يا نبي الله في حال كونكم منيبين إليه, في حال كونكم أنتم منيبين إليه. فقد تقرر عند علماء اللغة والنحو كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى, يقول الحال لا بد أن تكون مناسبة لصاحبها إفرادا تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. طيب, فالمفروض أن تقول فأقم وجهك للدين حنيفا منيبا إليه, لا منيبين إليه, منيبا إليه. طيب, فما هو وجه الجمع بين هذه الحال وبين صاحبها؟ والحال جمع وصاحبها مفرد. نعم نعم
كما في قوله تعالى يا أيها الذين إذا طلقتم النساء, فاللفظ خاص للنبي عليه الصلاة والسلام والحكم للمسلمين الجميع.
أحسنت. نعم. Donc ici, juste pour la faïda, et qu'on revienne un peu sur les règles qu'on a déjà vues, sur lorsque le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala interpelle notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va utiliser anta, le toi. Il parle au prophète, il dit toi. Dans ce verset-là, donc, il dit « Et tourne tout ton être vers la religion hanifan, en tant que hanif. » Donc là, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est clair, il lui dit « Fa'aqim wajahak » « Tourne ton regard, tourne ton être vers la religion. » Donc, l'expression nous montre qu'il s'adresse au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste après, il dit quoi? Munibina ilayhi. Repentant à lui, à Allah jalla wa ala. Revenant à Allah tabarak wa ta'ala avec le repentir. Mais munibina, ici, il est au pluriel. Donc comment on va faire pour lier les deux? Au début, Allah, il parle au singulier, après, il parle au pluriel. Alors qu'on est dans la même, ici, le même passage de la sourate. Sachant qu'en plus, munibina, dans la grammaire, c'est un état, un hal. Et en général, l'état, il faut qu'il s'accorde à la chose qu'il décrit comme étant cet état-là, comme ayant cet état-là, pardon. Donc normalement, on devrait dire muniban au singulier. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, l'aya muniban au singulier. Mais ici Allah il a utilisé le pluriel munibina. Donc comment on va faire pour justement expliquer cela? Bien comme il a dit le frère, hafizahullah ta'ala, dans, au niveau du lofd, au niveau de l'expression et des termes utilisés, on comprend que Allah il s'adresse spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au niveau du hukm, du jugement, ça concerne toute la umma. Et la preuve c'est quoi? C'est munibina ilay. Le fait qu'Allah il a utilisé le pluriel pour citer l'état. Il a utilisé le pluriel, c'est-à-dire que toute la umma, elle est concernée ici, du fait de se tourner vers la religion d'Allah avec tout son être. Et le fait qu'elle doit revenir à Allah avec le repentir. وَاتَّقُوهُ et de le craindre. وَاقِيمُ الصَّلَاةِ et de faire la salat. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ et de ne pas faire partie des mushrikines. Vous voyez? Naam. إذن نقول هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظا لكن يعم أمته ويعم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمته حكما فهذه الحال من جميع الأمة. ونظير هذه الآية كما قال وائل في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقال جل وعلا إذا طلقتم النساء بعد أن قال يا أيها النبي فهذا دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي وتحت خطابه صلى الله عليه وسلم. Et parmi les versets similaires, surat al-talaq, le divorce. Dans le sens rapproché, il dit: Ô prophète, lorsque vous divorcez de vos femmes ou des femmes. Donc au début, il dit: Ô prophète. Puis il dit: Lorsque vous divorcez. Donc là, c'est une preuve aussi que le hukm, il concerne toute la umma. Pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhak fi surat at-tahrim. Nafs shay. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Hada al-khitab khas bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. ثم ماذا قال؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هناك جمع، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سورة التحريم لا même chose. Au début Allah s'adresse au prophète. Ô prophète, pourquoi tu t'es interdit ce qu'Allah t'a rendu licite en voulant satisfaire tes épouses? Hein? Puis il dit quoi? Certes, Allah il est Ghafour Rahim. Puis il dit, certes, Allah Jalla wa Ala, vous a légiféré de vous libérer de vos serments. Il vous a légiféré de vous libérer de vos serments. Donc au début, il parle le prophète, mais après, il parle en disant vous. Donc là, il y a une preuve encore que le jugement concerne également toute la Ummah, pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. وكذلك في قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ثم ماذا قال؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر. لا وصل سباعي. Au début, Allah a dit dans surat Al-Ahzab, au début, il dit, ô prophète, crains Allah. Ittaqillaha. Il n'obéit pas aux kafirines ni aux hypocrites. Certes, Allah, il est alim, il est hakim. Et suis ce qu'il t'a été révélé de ton Seigneur. Jusque-là, il parle au prophète. Suis ce qui t'a été révélé, etc. de ton Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allaha. Puis il utilise le pluriel. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. De ce que vous faites. Donc là, encore une fois, ça englobe toute la Ummah. Hada dali. C'est une preuve que ça englobe toute la Ummah. Qala jalla wa ala fi nafsi surah. Falamma qada zaydun minha watara zawajanakaha likayla yakuna ala al-mu'minina. حرجون في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لا pareil quand il parle de Zayd. C'est qui Zayd ici? Ibn dans le verset. لا. Ibn Haritha. Il parle de Zayd ibn Haritha qui était considéré comme l'enfant, le fils entre guillemets adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc Allah Jalla wa Ala, pour montrer aux musulmans qu'il n'y a pas vraiment d'adoption, dans le sens où la personne ne devient pas vraiment ton fils, comme un vrai fils. Jamais. D'accord? Eh bien, Allah Jalla wa Ala, il savait bien sûr que le prophète avait quelque chose par rapport à l'épouse de Zayd, qui était... Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh radiallahu anhum. Et donc il a fait qu'il s'est passé quelque chose. C'est Allah qui a fait ça. Il a fait que entre Zayd et Zaynab, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont divorcé, ils sont séparés. Ils se sont séparés. Et Allah Jalla wa Ala, pour montrer que un homme ne devient pas vraiment le fils de quelqu'un de manière réelle comme un vrai fils, il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse se marier avec Zaynab. Même s'il a déjà été marié avec Zayd. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son vrai fils. Si ça avait été son vrai fils, il n'aurait pas pu se marier avec Zaynab. Pour revenir au verset, Allah il lui dit quoi? Il lui dit dans le sens rapproché. Et lorsque Zayd s'est séparé donc, de son épouse, nous te l'avons marié. Donc Allah Jalla wa Ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, on t'a marié Zaynab. Il dit quoi après? Likay la yakuna ala al-mu'minin harajun. Pour ne pas qu'il y ait de difficultés aux croyants par rapport aux épouses de la adhiyahim, des enfants que des enfants orphelins notamment, qu'ils ont pris en charge. Donc ces orphelins-là dont tu t'occupes, à qui tu donnes à manger, que tu loges, que tu habilles, etc., etc., c'est pas ton vrai fils dans tous les cas. Donc, les femmes qu'ils ont épousées, si après ils les divorcent, tu peux les épouser. Pourquoi ? Parce que c'est pas ton vrai enfant. Ça y est ? D'autres versets encore comme l'aïa. نسيت لكن الحمد لله تدخل الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك دليل على أن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما ولفظا وهذا هو مذهب الجمهور الحمد لله عليه الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة خلافا للشافعي خلافا للشافعي. Donc tous ces versets là nous montrent une règle qui est que lorsque Allah Jalla wa Ala il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela englobe toute la umma. Sauf s'il y a une preuve claire que cette interpellation ne concerne que le prophète. Et pour ça, il faudra une preuve. Exemple de verset où ça concerne que le prophète. Simple. Hein? Non. Non. Donc, tous les versets. Quand tu parles de Sourate Al-Munafiqun, c'est ça? Tu jettes des morceaux comme ça. Non, tous les versets qui concernent bien sûr Risala, la prophétie, le message, là, il est clair que ça concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'in Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. C'est clair que ça concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa arsalnaka للناس رسولا. Et on t'a envoyé aux gens en tant que messager. Là, on ne peut pas dire que ça concerne que la Oumma. Non, ça concerne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Là, on sait également que ça concerne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la règle qui nous la rappelle. On avait cité le Cheikh Al-Taymi par rapport à ça. Le khitab, le Coran. Dans le Coran, lorsqu'Allah Jalla wa Ala s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant Ittaqillaha, ou Aqim wajhaka, etc., Inna arsalnaka, c'est quoi la règle?
Ça vaut pour la Ummah, sauf s'il y a une preuve qui.
Est-ce que tu peux détailler un peu plus, Inch'Allah? Il y a combien de catégories? Tu te rappelles ou pas?
Non, même
trois. La première, c'est quoi?
C'est celle pour la Ummah.
Pour la Ummah tout entière. Lui, la Ummah. Et quand est-ce que c'est comme ça? Quand est-ce qu'on peut dire que c'est ça?
Parce que c'est pas spécifié. C'est pas le prophète.
Taïeb. Idan Taqoul. Ida. La yadullu dalilun ala. أن الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعم النبي وأمته ليس هناك دليل فتقول الخطاب خاص به لفظا ويعم النبي وأمته حكما. Donc lorsqu'il n'y a aucune preuve qui dit que c'est spécifique au prophète et aucune preuve qui dit également que ce n'est pas spécifique, que c'est global, général, dans ce cas-là, on dit que c'est spécifique au niveau des termes employés, mais que ça englobe toute la Ummah. ça englobe toute la Ummah. On a dit c'est le madhhab de la majorité des ulama. Ensuite, le deuxième.
Que ce soit
le prophète
sallallahu alayhi
wa sallam
qui vise,
que ce soit
une preuve,
voilà.
Aussi une preuve que ça lui est spécifique.
Voilà, il faut qu'il y ait une preuve. S'il y a une preuve qui dit que khitab, il est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les exemples qu'on a donnés, inna arsalnaka shahidan. D'accord ? Là, il y a la preuve, c'est clair. Et la troisième ?
La troisième, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cité. Et que ça. Le hukm, il est.
Non, tu l'as dit déjà celui-là. C'est le premier.
Non, parce que tout à l'heure, tu avais dit le khitab est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hukm, il est pour lui. Du coup, ça ferait une troisième catégorie qui est le khitab pour le khitab général.
Non. Là, on parle que du khitab spécifique au prophète. Les trois, Allah s'adresse au prophète dans les trois. Allah lui dit, il parle en disant Enta. C'est quoi la dernière
Le khitab khasa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hukm.
Donc, comme le premier alors. C'est quoi qui le différencie du premier et du
coup ? Plus d'alil, qul a'udhu bi rabbin nas. Allah il s'adresse à Prophète sallam. Le jugement il est général.
Le premier, le frère, il a dit lorsqu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de dalil. Allah il s'adresse au prophète et il n'y a pas de dalil qui dit que il n'y a que le prophète qui est concerné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que ça concerne toute la Ummah. Il n'y a pas de dalil. Ensuite, deuxième, il y a un dalil, mais qui prouve que ça concerne que le prophète. Dans ce cas-là, on dit que ça concerne que le prophète. Et la troisième ? Voilà. Troisième, c'est quoi ? Khitab au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un dalil clair qui fait comprendre que toute la Ummah elle est concernée. Tous les versets qu'on a cités. Surat al-Talaq par exemple. Idha talaqtumun nisa. Ça c'est un dalil. Qu'Allah Jalla wa'ala s'adresse au prophète, mais aussi à sa Ummah. Donc là ça englobe lui et la Ummah en même temps. Vous voyez ? وقوله تعالى فألهمها فألهمها أي الله عز وجل ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها بدأ بالفجور الله تبارك وتعالى بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل قالوا مراعة لفواصل الآيات وقوله تعالى فجورها وتقواها الفجور هو ما يقابل التقوى ما يقابل التقوى والتقوى طاعة الله تبارك وتعالى فالفجور معصية الله هذا في عبارات القرآن في عبارات القرآن الفجور هو ما يقابل التقوى خلافا لعبارات العرف عندنا الفجور الفاجر أما في القرآن فالفجور هو معصية الله تبارك وتعالى كما قال هنا فكل عاص فهو فاجر هذا في القرآن كل عاص فهو فاجر وإن كان الفاجر خص عرفا عند الناس في العرف بأنه من ليس بعفيف من ليس بعفيف الزاني تقول فاجر الزاني لكن شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هناك الفجار ليس بمعنى الزنات فقط، لا، الفجار العصاة، والمراد هنا الكفار، جميع الكفار، والهامها تقواها هو الموافق للفطرة، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها والعياذ بالله، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق، يعني الخلق لا يريد الحق فأزاغ الله قلبه، والله المستعان. Il dit par la suite فألهمها. Donc dans le sens rapproché. Et il lui a inspiré. Al-ilham, c'est une inspiration. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala inspire à la créature des choses. Voyez ? Donc Allah Jalla wa Ala a inspiré à ses nufus, à ses âmes, à ses créatures, fujuraha wa taqwaha. Donc son fujur, qu'on va traduire par la désobéissance, il lui a inspiré sa désobéissance et sa taqwa. Et son obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Il a cité Al-Fujur avant Al-Taqwa. Alors qu'il n'y a pas de doute que Al-Taqwa, c'est mieux que Al-Fujur. Et en général, on cite d'abord ce qui est mieux et après ce qui est moins bien. Ici, il dit parce que c'est pour harmoniser les versets ici dans le Coran, les versets de la sourate, pour que la fin de ces versets-là finisse toujours avec les mêmes la même sonorité et le même comment style, non, style. Il y a plein de mots en français mais qu'on va utiliser pour les chansons, etc., que j'ai pas envie de dire pour le Coran. D'accord ? Mais vous comprenez que c'est vraiment pour que ça finisse avec les mêmes sons, la même sonorité. Yani, si Allah Jalla, on n'aurait pas pu dire فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا وَفُجُورَهَا par rapport à ce qui vient juste avant, c'est pas bon. C'est pas harmonieux. C'est pas harmonieux. T'as vu ? Alors que si on dit وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est limpide. T'as vu ? Al-Muhim. Puis il dit donc, فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sa désobéissance et son obéissance. Donc le fujour, c'est exactement opposé diamétralement à la taqwa. C'est le contraire de taqwa. Le fujour, c'est le contraire de taqwa. Al-taqwa, c'est l'obéissance à Allah. Et al-fujur, c'est la désobéissance à Allah. Jalla wa ala. Donc, tout désobéissant, on dit de lui que c'est un fajr. C'est un fajr. Même si, dans l'esprit des gens, des arabophones en général, al-fajr, c'est plus spécifique que le désobéissant. Al-fajir, c'est celui qui n'est pas afif, qui n'est pas chaste, qui n'est pas pudique, quelqu'un qui fréquente les femmes, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas convenables au niveau de la chasteté et de la pudeur, on dit qu'il est fajir. Ça, c'est au niveau de l'esprit et les mœurs des gens. Mais dans le shara, dans la législation, al-fajir, c'est plus vaste que ça. Al-fajir, c'est tout désobéissant à Allah tabarak wa ta'ala, c'est un fajr. T'as dit, tous ceux qui sortent de l'obéissance à Allah, ce sont des fujjar. Ce sont des fujjar. Comme il dit Allah tabarak wa ta'ala, de la sens rapprochée, certes, le livre des fujjar sont dans as-sijjin, ou sont dans sijjin. c'est-à-dire le livre des kuffars ici. Ce n'est pas juste de ceux qui ne sont pas chastes et pudiques, mais le livre des kuffars. Sijjin. C'est quoi Sijjin, je crois? Vous vous rappelez? On l'a fait ça, je crois, non? Explication. Sijjin et Ibiyin. Hein? Plus précisément.
Un endroit dans l'enfer.
Plus précisément.
C'est un arbre.
Là.
Un degré.
Un degré, deux. C'est-à-dire, lequel?
Le plus haut.
Le plus haut? Hein? Non, c'est le plus bas. C'est le plus bas. C'est le niveau le plus bas de l'enfer. C'est djinn. Eh non. Donc Allah Jalla wa'ala également, il a inspiré cette taqwa qui est conforme à la fitra. Qui est conforme à la fitra. Comme on a dit tout à l'heure, Allah Jalla wa'ala, il a créé l'être humain sur cette fitra qui est l'obéissance à Allah, qui est le tawhid, qui est l'ikhlas. D'accord? Alors que le fujour, lui, c'est une chose qui fait sortir de l'fitra. Quand tu désobéis à Allah tabarak wa ta'ala, en fait, tu t'opposes et tu sors de cette fitra sur laquelle Allah t'a créé. Tu sors de toi-même de cette fitra. Donc on comprend qu'Allah, Jalla wa ala, il se peut qu'il inspire à la créature la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Mais ceci n'est qu'à cause de son égarement et de sa déviance. C'est pour cela qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens rapproché, et lorsque ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. فَلَمَّا أَزَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, parmi les tafsirs de ce verset, c'est lui qui les a laissés dans l'égarement. Il les a abandonnés et ne les a pas guidés. Donc, ils se sont enfoncés encore plus dans leur égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Au contraire, ils ont tourné le dos à la vérité. Ils ont tourné le dos à la fitra. Parce que la fitra, encore une fois, c'est l'amour de la vérité. L'homme, il est créé sur l'amour de la vérité. Vous voyez? Donc celui qui n'aime pas la vérité et qui rejette la vérité, il est sorti certes de la fitra. Certains disent également que yani, inspirer la désobéissance, c'est-à-dire que ces actes de désobéissance, c'est Allah qui les a créés aussi. C'est Allah qui les a créés, ces actes-là. Parce que sans la permission d'Allah, ils ne pourraient pas désobéir. Donc Allah les a laissés désobéir, c'est que forcément, yani, cela a été fait par sa création et sa volonté universelle, par sa prédestination. Hein? La création, l'écriture, la volonté, et par sa science aussi. Par sa science. C'est pour cela qu'on peut dire que Allah Jalla wa Ala, il leur a inspiré cette désobéissance-là. Il leur a permis de désobéir. Il leur a permis de désobéir. Mais d'une permission qui est kaounan, qui n'est pas religieuse, qui est universelle. D'ailleurs, non. Donc Allah tabarak wa ta'ala n'est injuste envers personne, mes frères. N'est injuste envers personne. Mais vu qu'il sait de la créature qu'elle ne veut pas la vérité, eh bien Allah Jalla wa Ala va égarer son cœur. Va égarer son cœur. Il va éloigner son cœur de la vérité. Et de la guider, qu'Allah nous en préserve. Est-ce que c'est clair, les frères? Nourdin. Ça va? On a vu un peu les choses qu'on a déjà vues, Inch'Allah Ta'ala, normalement. Il y a eu beaucoup de révisions là aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Hein? Vous voyez quoi? نعم. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant le mariage, non, bien sûr que non.
Après le mariage.
Et sa femme, ma fille.
C'est ça, parce que c'est son père adoptif. C'est pas son vrai père.
J'ai pas compris. Ah, devant Zayd, tu veux dire ?
Voilà.
Ben non.
Le droit de se dévoiler devant le prophète sallallahu
alayhi wa sallam. Non. Lorsqu'elle était mariée à Zayd ?
Ouais.
Non. Mais non, elle n'a pas le droit. C'est pas son vrai père. C'est pas son vrai père. Parce que si elle avait le droit, il ne pourrait pas se marier avec elle après. Il n'aurait pas pu. Et voilà. C'est pour ça que ta femme, elle peut se dévoiler devant ton père. Parce que même si tu la divorces, elle ne pourra jamais se marier avec lui. Jamais. D'accord ? Parce que si elle pouvait, elle ne pourrait pas se dévoiler. Impossible. Ça y est ? Non. Wallahu a'lam. والعلم عند الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد